Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair.
Bonsoir les copains, c'est Excellent, le rendez-vous de l'excellence française dans toute sa diversité sur Sud Radio comme tous les dimanches. Ce soir, en studio pour vous, une icône de la house music française dont tant de titres ont bercé le monde entier. Il est producteur et compositeur et sa musique, nous la connaissons bien, bien et tous. Et oui, mes chers auditeurs, c'est bien Marc Cerron qui est avec nous aujourd'hui avec plein de nouveautés, notamment son nouveau single avec Marc Lavoine, sans oublier son concert symphonique à Nice le 3 novembre prochain au Palais Nicaïa, accompagné par le chef d'orchestre Randy Kerber. Quel programme ! Bienvenue Cerron.
Oh, là vous en dites que ce qui se passe sur les 6-8 semaines.
Ouais, vous allez nous en dire si plus après.
Quand je vois ce que j'ai à faire dans les 2 ans, là, ça fait peur.
On va en parler tout de suite. Alors, il a un nom qui résonne.
Donc, je suis quelqu'un simplement qui se bat pour la retraite à 62 ans.
Eh ben d'accord, si vous le dites. Il y a un nom qui résonne dans le monde, je ne donnerai pas mon opinion là-dessus. Dans le monde de la publicité en France, c'est bien celui de Franck Tapiro. Pardon. Il a débuté aux côtés de l'éminent publicitaire Jacques Segala. C'est aujourd'hui une figure influente de l'industrie de la communication. Franck Tapiro, il a marqué de son empreinte le paysage publicitaire français et international. Il est aujourd'hui à la tête de l'agence Hémisphère Droit, mais pas que, puisque vous avez pu le découvrir en chroniqueur à la télé, dans le monde politique, sans oublier l'Afrique, évidemment. Vous aussi, c'est pas mal comme programme, Franck Tapiro.
C'est pas mal. Vous parlez des 2 ans, je suis bienvenue au club, Marc Cerron, parce que je pense aussi que quelque part c'est intéressant de se dire qu'on a encore plein de projets, même quand on a 62 ans plus ou un petit peu moins. On va pas se battre sur l'âge de la retraite, on va pas refaire un débat politique
L'important,
aujourd'hui.
C'est d'avoir des projets.
C'est bien voilà. Parce que vous avez commencé l'émission sans moi. Allez, c'est excellent, chers auditeurs, bienvenue chez vous. Quand même, hein.
Je suis désolé. Hein.
Je l'écoute en boucle, c'est-à-dire que je la mets à fond chez moi et je ne m'en lasse pas de
Est-ce
cette
que
chanson.
Ça vous donne du plaisir.
Ah bah évidemment.
Bah donc
c'est pour ça que vous bossez. Voilà. Alors on est sur Supernature, hein, évidemment. C'est le troisième très célèbre album de Cerron, hein, titre qui est sorti dessus, en 1977, dont on se lasse pas. On remet un petit peu de son, on remonte un peu là. Voilà. Donc on se lasse pas de ça, mais Marc Cerron, c'est ça en 2023, et c'est ça avec Marc Lavoine.
Amour, amour, avec ma pomme et ta gueule d'amour, même si c'est pas tout rose tous les jours, mon cœur se bat pour toi, mon amour, mon corps en a envie tous les jours, moi qui me crois.
Une reprise de la chanson Lovebox de Marc Lavoine par Cerron sur Sud Radio. C'est composé et produit par vous, Cerron. C'est quoi l'histoire derrière cette collaboration et cette envie?
J'ai reçu un texto de Marc il y a un an,
ouais.
Où il me demandait si on pouvait se voir, si on pouvait déjeuner. Il avait quelque chose à me parler.
D'accord.
Ça a mis quand même un mois parce que j'ai répondu au texto et avant qu'il me revienne. Et c'était passé presque un mois.
D'accord.
Bref, on déjeune et il m'explique qu'en fin de compte, sur sa tournée, une grosse tournée sur 2 ans, tous les fins de spectacle, il le finit avec Give Me Love, un de mes titres, en live avec son groupe. Il chante Je me sens si seul, je crois, dessus. Ouais. C'est-à-dire qu'il fait un match-up.
D'accord.
Donc c'est lui qui a commencé le truc.
Et vous étiez au courant de ça déjà?
Pas du tout. Donc il était en train de me l'expliquer pendant le déjeuner et je lui dis super, bravo, merci, bon choix. Mais ok. Et il me dit, je fais une date parisienne au Palais des Congrès, ça serait top si tu acceptais de venir jouer la batterie.
D'accord.
Évidemment que je suis allé.
Bien sûr.
Et puis de là, on s'est découvert vraiment beaucoup d'atomes crochus. On n'habite pas loin l'un de l'autre à Saint-Germain et j'ai mon studio là-bas et on se voit et un jour je me suis dit tiens je vais faire la même chose.
D'accord.
Son idée, mais je vais faire à l'envers.
Ouais.
Donc je vais composer un truc dans une certaine harmonie, une certaine rythmique.
Vous avez collé ces voix dessus d'abord
et je suis allé taper dans deux a cappella, ouais. Toi mon amour et comment allez-vous?
Oui.
Je l'ai fait.
Et c'est un mélange des deux du coup.
Voilà, c'est un mélange. Donc c'est 3 titres en fait.
D'accord, c'est génial. Et alors
c'est
vous
très
l'avez
tendance.
Fait écouter.
Il y a Elton John l'a fait l'année dernière,
ouais.
Il y a un an et demi à peu près avec Dua Lipa, qui
ouais.
est magnifique.
Ouais.
Donc c'est très tendance. À partir du moment où à la sortie, ça reste créatif, parce que je trouve qu'il y avait, et d'ailleurs Marc le confirme, ses textes au départ c'était plutôt assez mélancolique. Alors que là,
je le
chante quand on dit à quelqu'un toi mon amour, c'est que c'est positif. Quand on dit à quelqu'un comment allez-vous, on est ouvert, on est positif. Donc ça a complètement changé.
Et ça a dû changer sa perception de sa propre création à lui-même.
Oui, mais je parlais par rapport à ce qui se passe, à la tendance. Il y a beaucoup de producteurs qui commencent à faire ça et il y a des petites pépites qui se trimballent. c'est assez sympa. Et en tant que DJ, je découvre quand on cherche un peu, parce que quand je suis en DJ, je ne joue que mon répertoire, mais de temps en temps, j'essaye de faire des clins d'œil d'a cappella, par exemple.
Vous faites pas mal de live aussi, hein, d'ailleurs, vous avez
j'en
une
fais
cave,
aussi pas mal, ouais.
Ouais, c'est ça ou...
Je fais toujours 30-40 dates par
voilà,
an.
Voilà, c'est ça.
Et je m'arrête là, et c'est déjà suffisant, et c'est super. De voir 5 générations qui ont suivi chaque fois. Quand j'ai démarré, j'avais un public qui avait 18-35.
D'accord.
Quand ils commençaient à aller en club.
Ouais.
Chaque génération, chaque décade, ils ont toujours eu 18.
Mais écoutez, je l'ai bien
et
vu.
Et aujourd'hui,
moi,
je suis toujours le plus vieux de la salle.
Ça, c'est génial. Je l'ai bien vu quand j'ai parlé de vous, même dans les couloirs de la radio. Hein. Céron, c'est un nom qui résonne. C'est-à-dire que les gens, quelle que soit la génération, on a des réalisateurs de 20 ans, on a des gens bien plus âgés qui travaillent ici. Vous êtes une référence, effectivement, multigénérationnelle. Donc, c'est un beau succès, ça, pour vous. Hein.
Bah,
c'est le meilleur des succès, en fait.
C'est le meilleur des succès. Mmh. Quand on me demande des selfies dans la rue, où des jeunes me veulent une photo, et ils sont accompagnés des fois de leurs parents et on fait la photo et vous voyez les parents qui disent c'est qui ?
C'est Max Héron, maman.
Mais ils s'en rappellent plus. Donc, mais c'est ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la génération nouvelle et ça c'est un cadeau.
Alors je l'ai dit en intro aussi, Marc Céron, vous allez faire un concert symphonique. Alors c'est pas rien ça non plus, à Nice le 3 novembre prochain, ça va être au Palais Nicaïa. Vous êtes accompagné par le chef d'orchestre Andy Kerber, qui est un grand chef d'orchestre de
grand
musique
Oscarisé,
de film,
fait,
c'est ça. Voilà.
Qui a fait Titanic, c'est un énorme...
Et pareil, c'est quoi la rencontre, l'histoire de la rencontre alors ?
Ben, c'est à travers des musiciens, je suis quand même resté 22 ans aux États-Unis, donc on s'est rencontrés. Et quand j'avais besoin d'un très très beau piano à faire... vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Je lui ai envoyé, comme on dit, les stems.
Ouais.
Et il me faisait les pianos. Et quand on m'a proposé de faire, parce que c'était pas mon idée au départ de faire de symphonique, quand la ville de Nice m'a proposé de faire ça, ils ont un concept qui s'appelle
c'est
pas classique.
C'est voilà, ça. C'est ça, pour rendre la musique urbaine en fait accessible
voilà,
à travers la musique classique.
Ils ont fait ça sur le catalogue de Prince, ouais, de David Bowie, de Gainsbourg. Ils m'ont dit au moins vous êtes vivant encore. Donc évidemment j'ai accepté. C'est la vérité. J'ai accepté. Et en plus,
tant qu'il est là.
Et en plus c'est un petit peu comme j'ai enregistré mes premiers albums. Ouais. Quand on faisait les cordes, il y avait le studio qui était rempli de la partie de cordes.
Ouais,
on faisait les cuves séparément. Mais
et c'est un autre frisson, c'est une autre approche de la musique. Ça, tout d'un coup, ça prend une espèce de dimension.
Parce que c'est pas parfait comme l'électro, comme tout ce qui est maintenant numérique.
Très carré quoi.
C'est très carré, donc là ça va obligatoirement lui amener de la vie. Et mon but c'est essayer de pousser un peu le bouchon pour que je garde mon groupe électro devant et c'est l'orchestre symphonique qui va nous accompagner.
Génial.
Donc j'ai hâte de savoir qu'est-ce que ça
va donner. Et
mais
alors votre
cas,
objectif, vous l'avez dit, hein, je vous cite, c'est de casser les codes et de faire tomber les barrières et les préjugés.
Je le prouve encore là.
Voilà, c'est ça, c'est un engagement politique presque de votre part la musique finalement, Marc Céron, parfois. Hein. Parce que casser les barrières, faire tomber les préjugés, créer le lien, c'est un discours qu'on pourrait entendre dans la bouche de certains de nos politiques, non ?
Oui, moi je
vous vous en rendez compte ? C'est un engagement sociétal peut-être plus.
Je vais vous donner ma réponse. Moi je dirais que plutôt l'émotion populaire passe par la musique en premier.
D'accord.
On consomme de la musique, mais on n'a même pas l'idée de nombre d'heures. Donc pour faire passer des choses, c'est par là que ça se passe. On voit bien par exemple ce qui se passe avec toute la génération des jeunes, que ce soit l'hip-hop, et si y a ça, on voit bien les mouvements.
Ça permet de s'affirmer identitairement aussi, s'incarner, etc. Enfin, ça permet plein de choses à la musique.
Ça permet de faire passer beaucoup de choses. De la colère, de l'amour, de la joie. Moi, je suis plutôt dans la catégorie festive, faire de la joie. Y a de très
Est-ce que vous êtes heureux, vous ?
Oh, mais comment voulez-vous que je sois pas heureux à mon âge ? La question qu'elle me pose, la dame.
Je suis sûr qu'on ne pose jamais des questions comme ça.
Comment voulez-vous que je ne sois pas heureux d'avoir les jours, j'ai joué vendredi, je rejoue ce soir
d'ailleurs, pour
la Fashion Week, ils vont avoir encore 20 ans, 30 ans. C'est de l'adrénaline à l'état pur, c'est fantastique. C'est un beau cadeau de fin de carrière. J'ai eu ça depuis très longtemps, mais. Mais en tout cas, aujourd'hui, je le vis avec joie. Oui. J'essaie d'être à la hauteur.
Vous y arrivez très bien, a priori. Franck Tapiero, briser les barrières, créer de nouveaux codes, c'est un peu ce que vous faites, vous aussi, hein, depuis le départ, dans la pub, en fait.
J'essaye, en fait, mais je suis
dans
créatif.
Dans votre vie, en général
Exactement, dans la vie, parce que la pub est un passage qui est un peu long, hein, ça fait 30 ans. J'ai arrêté il y a 4 ans, en fait. Hein. Je suis fondateur de l'hémisphère droit, mais que j'ai créé d'ailleurs, hémisphère droit, vous savez ce que ça veut dire. Hein. C'est la partie droite du cerveau. La partie droite du cerveau, c'est celle qui est la plus imaginative. Et celle qui vous permet de sortir tout le temps du cadre. On dit out of the box.
Donc la musique, c'est de ce côté-là aussi.
Exactement, je fais la même chose. Ah ouais. Dans tous les thèmes, en fait, de montrer qu'il y a des conventions à chaque fois qui sont dans le cadre, le rationnel, quelque chose qu'on maîtrise. Mais finalement, en dehors du cadre, il y a peu de gens. Et plus vous allez loin du cadre, plus vous répondez exactement au brief, mais vous le faites différemment.
Bien sûr.
Et j'ai réussi à le démontrer en faisant une agence qui a fait ça pendant 26 ans et qui a, c'est vrai, parfois défrayé la chronique, provoqué, parfois un peu trop loin, parfois, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de ne jamais laisser indifférent. Et en fait, c'est pour ça que j'ai arrêté la pub il y a 4 ans. On m'a dit, mais pourquoi t'as arrêté la pub ? J'ai dit, mais c'est pas ça, c'est la pub qui s'est arrêtée. Ouais. C'est parce que depuis quelques années, vous le voyez bien en publicité, il y a de belles choses, mais il n'y a plus d'idées, il n'y a plus de création provocante. Il n'y a plus de choses qui vont vous faire vous lever le matin et à un moment.
Il n'y a plus les cachous, la genie.
Créer de l'émotion. Il n'y a plus d'émotion. Il n'y a plus rien.
Très rapidement, parce qu'on va devoir quand même aller en pub.
Qu'est-ce que fait l'IA là-dedans ? Il n'y a pas par rapport à.
Alors, l'IA, moi, je lance aujourd'hui un concours. Je vous parie que vous me mettez face à une IA comme ChatGPT, par exemple, pour ne pas la citer, avec 10 annonceurs qui ont 10 briefs pour la création de slogans. Je fais le pari, on peut le faire demain matin si vous levez là l'antenne, que je gagne. Pourquoi ? Parce que ChatGPT va réussir à tout faire mieux que nous, mieux écrire, mieux traduire, tout. Dieu merci, je pense qu'il ne peut pas créer encore aujourd'hui. Il peut écrire de très belles choses, mais inventer des slogans publicitaires créatifs, je pense qu'il en est encore incapable. Démonstration, quand vous voulez.
C'est parti, on va revenir juste après ça, chers auditeurs, dans C'est excellent avec le producteur et compositeur Max Aaron et le publicitaire qui fait pas que de la pub a priori.
On parle de musique aussi.
Voilà, allez, vous restez avec nous, à tout de suite.
Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair.
Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi avec vous, chers auditeurs, c'est excellent. Avec le compositeur et producteur Marc Cerron et le publicitaire, alors vous voyez, ça me fait bafouiller tellement j'avais envie de dire, entre autres, à la tête de la société Hémisphère Droit, pas que, Franck Tapiro. Alors Franck Tapiro, quand même, je vais être obligée de parler un peu de pub pour découvrir à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas forcément. Vous avez débuté en collaborant avec Jacques Séguéla à RSCG, puis Euro RSCG. Vous avez élaboré avec lui la campagne Génération Mitterrand en 1988.
J'ai fait surtout le slogan Tonton, laisse pas béton.
Oui, c'est ça.
Quand on a fait croire que Mitterrand ne voulait pas se représenter.
Renaud
avec
qui
Renaud,
dit voilà. que c'est lui qui l'avait écrit quand même, vous êtes au courant. Hein.
Ouais. Non, je sais, mais c'est pas grave. C'est pas,
c'est
très
pas
grave,
on va lui laisser.
Il a écrit sur une de mes idées, on va dire.
D'accord. Ok. Et puis, vous avez fait plein de choses. Hein. Vous avez été chroniqueur à iTélé, vous avez été juré dans l'émission Inventeur de l'année sur M6. Vous avez été, alors, mis à part ça, conseiller médiatique quand même de Nicolas Sarkozy jusqu'en 2007.
Ah oui. Oui, je précise, je suis en 2007.
Voilà.
Jusqu'à la victoire. Après, je ne suis pas responsable.
Pour qui vous... C'est ce que j'allais dire. Vous avez conçu pour lui la campagne Imaginons la France d'après, ouais. Le slogan de la présidentielle Ensemble, tout devient possible.
Absolument. Grosso et la modo... musique. Et la musique, on en reviendra après.
Ah, la musique, c'est vous aussi.
Ah oui, je suis auteur, compositeur,
éditeur,
producteur, chanteur.
Ok, vous avez un gros lien en commun en fait.
C'est pour ça, oui. Mais oui,
j'ai pas fait exprès. Hein.
Mais ça tombe très bien. Il n'y a pas de hasard.
Par rapport à ce slogan et cette campagne de 2007 pour Nicolas Sarkozy, grosso modo, c'est la campagne qu'il a fait devenir président, vous l'avez dit. C'est quoi les strates de communication? C'est quoi la recette gagnante dans ces cas-là ?
D'abord, la recette gagnante, bon, la chance, c'est que j'étais avec quand même le plus grand phénomène de la politique de ces 30 dernières années, qu'on l'aime ou pas.
Hein. Oui.
C'était un vrai génie politique, mais surtout ce qui était déjà un communicant. Donc moi, en fait, j'avais déjà en face de moi un candidat qui était tellement communicant qu'il fallait juste que je lui mette les bons mots, les bonnes idées. Mmh. Et c'est vrai qu'il fallait qu'on trouve ce qu'on appelle une dialectique politique qui parle au plus grand nombre. C'est-à-dire, on est en 2006, et comment un an avant, même si tout le monde le voyait gagner à l'avance, moi je n'y crois jamais, parce que ça ne se passe jamais comme ça, comme au foot, on sait très bien ce que ça nous coûte, il faut aller avoir une stratégie qui parle à tous les Français bien avant le début de la campagne. Ouais. Et en fait, tous les Français, dans leur ensemble, qu'ils soient de droite ou de gauche, et surtout les apolitiques, voulaient tourner la page des années Chirac et des années d'immobilisme. Donc, en fait, lui, il est parti sur la rupture, et moi je l'ai traduit en imaginons la France d'après. Tournons la page. D'après quoi ? Alors, après JC, c'est pas forcément Jésus-Christ, c'est Jacques Chirac aussi. On était bien emmerdés, parce que tout le monde, évidemment, m'a accusé de vouloir faire enterrer Chirac pour Sarkozy. Mais in fine, vous savez.
C'est vrai que quand on cherche un peu sur vous, il y a quelques articles qui disent ça assez clairement.
Ouais. Oui, bien sûr, mais vous savez, moi j'assume tout. Pourquoi ? Je veux dire, on ne peut pas, c'est comme en musique, on ne peut pas faire quelque chose d'artistiquement et créativement fort si on ne dérange pas. L'art, c'est déranger. Si on ne dérange pas, on n'est pas artiste. Mmh. Et la création, c'est autre chose. Parce que la création, il faut dire, c'est souvent de l'art de commande. Mmh. Mais il y a une part artistique forte, puisqu'on se sert de plein de moyens artistiques, que sont le visuel, les mots et la musique,
pour créer l'émotion. Mais ce n'est pas parce que c'est des commandes qu'on ne crée pas correctement, ou qu'on ne fait pas de la belle Absolument. Création. D'ailleurs, Marc Serrone, vous aussi,
sûr,
vous avez des
bien
commandes.
Bien sûr, encore faut-il avoir l'inspiration, quelque chose qui nous inspire. Oui,
ouais, c'est ça. Et alors, Franck Tapiro, l'un de vos moments les plus mémorables dans cette période-là, racontez-nous un moment clé.
Avec Nicolas Sarkozy
ou avec qui vous vous voulez, ouais, mais dans cette période pub, Séguéla, Sarko,
Ah, il y en a un. Il y en a énorme. Aussi. C'est en 96, si ma mémoire est bonne. Ouais. Nicolas Sarkozy m'appelle, il était secrétaire général du RPR.
Ouais.
Et ils étaient vraiment au fond du trou. Philippe Séguin était au fond du trou. Ils disent, voilà, il faut trouver quelque chose pour relancer le RPR. C'est une catastrophe. Il n'y a plus d'adhésion, il n'y a plus rien. Et je vais les voir dans le bureau de Philippe Séguin. Je dis, écoute, vraiment, il y a quelque chose dont on peut tous être d'accord. C'est qu'on a la droite la plus bête du monde. Et Morgane fait, oh, c'est bien vrai. Puis, voilà ce que je propose. On a pris un dessin d'Astérix et Obélix, mmh. le fameux banquet.
Ouais.
Et en gonne énorme, on avait mis, vous en avez marre d'avoir la droite la plus bête du monde pour l'interrogation? Ça tombe bien, nous aussi, adhérents au RPR. C'est un projet, une petite affiche, qui a été montrée aux jeunes du RPR un samedi après-midi.
Ouais.
Et dans la salle, il y avait un photographe qui a pris la photo, alors que c'était qu'un projet. Et à partir de cette photo, je ne sais plus de quel journal il était, ils ont commencé à créer un buzz sur les réseaux sociaux, mmh. en appelant Uderzo et toute la France, comme quoi on aurait volé Astérix et Obélix pour faire une campagne politique. Ce qui était faux, c'était juste un essai. Le lundi matin, Uderzo est interviewé en disant, ils lui ont menti, il y a des milliers d'affiches dans toute la France, vous ne les avez pas vues? Et Uderzo, mais non, mais comment, c'est un scandale. Donc il parle, il dit du mal de Nicolas Sarkozy, donc il va l'attaquer en justice.
Oh là là.
Sarkozy m'appelle, on va le voir, on calme le jeu puisque ce n'était pas vrai. Et in fine, Uderzo était vraiment gentleman. Il a fait des dessins qui ressemblent un petit peu à Astérix et Obélix pour qu'on fasse le vrai visuel de la campagne. Donc in fine... Toute la journée, moi, j'ai dû perdre 10 kilos de sueur, pensant qu'on allait se fâcher à vie avec le père de Astérix et Obélix. Et finalement, grâce à ça, j'ai pu inventer Sarkozyx, qui, voilà, Séguinyx, et voilà. Et c'est devenu. Et moi, d'ailleurs, on m'appelait Tapirix pendant toute la campagne.
C'était vous le tapis volant, c'est ça?
Le Tapirix, voilà. Et Doncyx, mon ami Jérôme Doncieux. Et là, en fait, c'est devenu maintenant, après, un suffixe de toute la campagne. Et ça nous a permis, finalement, de montrer que, voilà, que Nicolas Sarkozy, c'était l'Astérix de la politique. Comme quoi, encore une fois, on ne peut pas faire une bonne campagne sans créer un électrochoc. Mmh. On ne pensait pas, parce que celui-là, c'était fait avoir quand même par des médias peu regardants, puisqu'ils ont fait croire à Uderzo qu'on avait sorti la campagne sans lui demander son avis. Mais in fine, comme on avait l'énergie quand même positive de notre côté, on a récupéré ça pour nous et on a pu en faire un buzz.
Donc
la preuve aujourd'hui, encore, tout le monde se rappelle de ce slogan.
De volonté d'implication, oui. En fait, positive, quoi. C'est ça que vous dites.
Et d'énergie. Je vous le dis, et depuis des années, je parle des présidentielles. À chaque présidentielle, on me demande comment on gagne une présidentielle. C'est simple. Le rationnel, vous le mettez de côté. C'est que de l'émotionnel et c'est celui ou celle qui le veut le plus qui arrive au bout. Prenez toutes les campagnes politiques, surtout celle de Mitterrand, celle de Chirac, celle de Sarko et celle de Macron, n'en parlons pas, ce sont ceux qui le voulaient le plus. C'est une hyper volonté qui rencontre le désir d'un peuple. C'est extrêmement simple.
Marc Serron, quand
je suis assez d'accord. Ça.
Vous aussi, c'est une hyper envie, une hyper volonté de votre côté
mais
aussi.
Mais pas que simplement dans la politique, dans beaucoup
dans
de choses.
Dans tout, quoi. Ouais.
Bien sûr.
Alors là, il faut le vouloir. Dans la musique, on n'en est pas comme ça. Mais il y a tellement de barrières, il y a tellement de choses. Si on s'en sert pas comme escabeau quand il se présente devant vous, c'est un métier impossible. C'est un métier impossible. Mais quand on a la passion, on se rend pas compte. On marche dedans. Tout ce qui se présente.
C'est vrai. Je suis assez d'accord.
On voit pas les obstacles de la même façon.
Comme moi, excusez-moi. Quand on me dit 50 ans de carrière, comment vous avez fait? Mais j'en sais rien.
Si on se pose la question, on fait plus en fait. Hein. C'est ça que vous dites. C'est compliqué.
Les barrières, j'en ai eu obligatoirement. Moi, je les ai pas vues. Elles m'ont affecté sur le moment. Quand on se cogne le tibia au coin du lit.
Bien sûr.
Mais ça passe. Ça tue pas. Ça passe.
T'oublies quoi.
Mais bien comme sûr. L'a dit Marc tout à l'heure, c'est que l'énergie de sa carrière qui a commencé à 50 ans, qui va se poursuivre encore pendant 50 ans, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, c'est qu'il n'y a pas une journée où il n'a pas un truc à faire, où on ne le demande pas, du selfie jusqu'au live.
Ouais.
Imaginez, pour les artistes que je connais, il y en a combien qui ont la chance de vivre ça? Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Et alors, de façon mondiale tout de suite.
Ouais.
C'est-à-dire que lui, il a commencé d'abord pour être connu à l'étranger.
Je n'avais pas fait exprès.
Mais l'histoire est exceptionnelle.
Son
histoire, elle est magique. C'est une histoire, il faudra en faire un film.
Je n'avais ni ambition ni de plan. J'avais fait cet album de 16 minutes 30 de long, Love in C Minor. Bon, c'est bien que c'est pas prévu pour passer en radio. Hein. Et je voulais faire ça pour me faire plaisir. Et après, j'ai tenté d'avoir un deal de maison de disques. Des fois, on va en vendre 12, mais voilà quoi.
Tu parles.
Et j'en ai fait fabriquer quelques centaines. Mais quand on fait fabriquer des vinyles, moins de 5000, ils le font pas. Et qu'est-ce qu'on en fait? Avec des copains, on l'a mis un peu à gauche, à droite. C'est parti aux États-Unis, mais je ne l'ai pas fait exprès.
C'est
jamais génial. J'aurais pu avoir l'ambition de dire aux Américains...
Il faut y aller au culot, quoi, aussi. Hein. Il y a une histoire de volonté.
Mais quelque part, il a provoqué.
Il ne faut pas avoir peur, quoi.
Je pense, hein, que, je pense qu'il y a, les... il y a un facteur, vous n'en parlez pas, mais il y a un facteur dans tous les métiers un peu difficiles à réussir. Et quand on atteint des certains sommets, il y a une part de chance qu'il faut quand même.
Ah bon ? Pensez pas que ça se provoque,
j'avais
là, c'est
mon père
Marc
qui
Serron.
Me dit, qui l'interprétait. Il n'était pas très cultivé, mais il était très sensible et beaucoup de morale. Et il me disait, il faut toujours être sur le quai de la gare, car si le train y passe, c'est pour toi.
Ouais.
Et on ne va pas te téléphoner. Quand est-ce qu'il va passer ?
C'est vrai.
Je pense que ça dit beaucoup de choses.
Non, mais je suis totalement d'accord, mais je pense, mais c'est normal, c'est toute son humilité aussi, c'est qu'il l'a provoqué, parce qu'il l'a dit tout à l'heure, on ne pouvait pas lancer un 10 si on ne faisait pas 5000, un minimum exemplaire. Mais faut, c'est là le
faut
risque.
Faut prendre le risque.
C'est là.
Faut investir.
Comme il a pris
bien
le risque de 5000, après, il faut le distribuer. Donc, in fine, si on peut analyser ton coup de chance, c'est que sans cette décision, où c'est quand même.
Comme tu l'as dit, il faut le vouloir.
Il faut le vouloir. Voilà. Donc la chance, il faut la vouloir.
Tout à
et lui, il a vraiment poussé sa chance. Et la preuve, puisque ça a été un truc assez unique dans l'histoire de la musique française. Être une star à l'étranger avant d'être en... Waouh,
bon,
tout le monde
souvent,
voulait,
souvent,
hein.
Johnny, souvent, ce qui ne marche pas en France, si ça part là-bas, ça revient ici, ça marche derrière. Parce que, allez expliquer pourquoi, il y a un état d'esprit français qui fait qu'ils ont besoin peut-être de preuves pour finir par apprécier quelque chose. Alors justement, pour revenir sur l'utilisation de la musique dans la pub, puisque vous êtes vous-même compositeur, vous l'avez dit Franck, on imagine quand même que ça contribue à la perception d'une marque, d'un produit, que c'est quand même hyper important la musique.
Alors,
dans la pub.
Ah, c'est plus qu'important, ouais. Puisque c'est vital. Moi, quand j'ai commencé, donc en 87, ça remonte à pas mal de temps. Je me rappelle que dès les premières campagnes, ils ne comprenaient pas parce que j'étais stagiaire rédacteur, je commençais d'abord par trouver la musique. Et je me disais, mais attends, mais trouve-nous d'abord l'idée. J'ai dit, non, vous n'avez pas compris. Si on ne trouve pas la musique, on n'aura pas le vecteur d'émotion. Et en fait, ça a été prouvé scientifiquement après des années après, c'est que la musique, la part de la musique, représente 60 à 80% de l'impact et de la mémorisation d'une campagne.
Incroyable.
Donc en gros, une campagne, elle est, on dit audiovisuel, c'est dans le bon sens, audio d'abord, visuel ensuite.
Après.
C'est l'audio qui prime. C'est
vous
la musique
fait, vous avez
et
fait
la slogan.
Pas mal de musique
oh là là,
de pub aussi et tout ça. Ouais.
Ce qu'on appelle de la synchrone, j'en ai beaucoup.
Ouais.
Que ce soit avec.
Et
Gucci,
comment vous créez dans ces cas-là
ce soit...
c'est le
non,
produit
crée,
lui-même
je crée
vous
pas,
avez
c'est,
des...
c'est les créateurs de spots.
D'accord.
Qui vous la disent, musique va les inspirer.
D'accord.
C'est dans ce sens-là que ça se passe.
Donc vous créez la musique et ensuite il crée la vidéo sur votre musique et pas l'inverse.
Par exemple,
quoi.
Sur un titre que vous avez passé tout à l'heure, Supernature, si j'ai pas eu 50 synchrones, j'en ai beaucoup. J'en ai une autre. J'en ai une d'ailleurs.
Je pense
avec une
que
très,
c'est
très
le titre
marque.
Que j'ai dû le plus entendre dans ma vie aussi à peu près.
Ah oui, je sais pas vous le dire.
C'est incroyable.
Mais j'ai eu aussi Give Me Love avec, avec les éponges Spandex. Vous l'avez vu avec les éponges Spandex?
Ah, j'ai adoré.
Non,
j'ai adoré.
Vous voyez, c'est un fils de pub celui-là.
Mais oui,
sait,
parce qu'il y avait du sens.
Attendez, faut qu'on rende l'antenne. Mais on continue juste après. C'est excellent avec de la musique et de la pub. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, au menu sur Sud Radio, on vous revient avec le musicien producteur Marc Serron. Attention, puis le publicitaire aussi. Aussi musicien Franck Tapiro et Musica.
Sud Radio 7 excellent Judith Belair.
Ah, merci d'écouter Sud Radio, chers auditeurs, c'est excellent. Votre rendez-vous du dimanche, aujourd'hui avec le musicien, compositeur Marc Serron et le publicitaire, mais pas que Franck Tapiro, décidément. Serron, on vous écoute encore un peu. On devait avoir Give Me Love aussi dans cet extrait.
Ah oui.
Donc là, on entend Part of You 2023. J'avais demandé un deuxième petit extrait, mais c'est pas grave. En fait, je voulais qu'on entende Give Me Love parce que c'est 1977 à la base. Et que ça,
et
c'est.
Et vous voulez vous rappeler de Spontex?
Ça doit être ça. J'y pense tous les jours, Marc.
Prends une Spontex.
Allez, regardez, on écoute un petit peu Give Me Love quand même tout de suite. Là. Voilà. Alors, c'est un extrait où elle chantait que je voulais entendre. Bon, Marc Serron, sur Sud Radio, chers auditeurs, vous l'aurez compris. Ce que je voulais dire, c'est que c'est deux titres, deux époques, hein, clairement. Et pourtant, il y a une signature reconnaissable entre tous vos titres, en fait. C'est-à-dire que quand on écoute, on entend Serron, quel que soit le style, que ce soit plus house, plus électro,
bah, c'est
etc.
C'est la moindre des choses.
Votre signature. Oui, mais ce n'est pas le cas de tous les musiciens.
Ah oui, mais pour ceux qui durent, que ce soit des acteurs, que ce soit dans n'importe quelle corporation, si on n'a pas une signature, on n'existe pas, c'est pas vrai. On suit les modes. Moi, je sais qu'en 50 ans, vous imaginez le nombre de modes, le nombre de fois où une maison de disques m'ont dit pourquoi tu fais pas dans la pop des années 80 ou des années 90, pourquoi tu fais pas de l'EDM dans les années 2000. Moi j'ai tenu mon chemin et la chance aussi, j'ai toujours fait beaucoup de concerts. Et quand on fait des concerts, qu'on a un public qui est fidèle, on s'occupe pas de savoir si on fait des disques pour être connu ou quoi que ce soit. C'est pas ça. Moi, mon but, c'était d'être sur scène et j'espère de finir sur scène parce que c'est vraiment le moment dans la vie que
C'est ça la plus belle mort, c'est la mort sur scène?
La plus belle vie, hein,
la plus belle mort, la plus belle vie, la plus belle mort, finir sur scène. Ah ouais. Bah, c'est
bien
ça.
Sûr, bien sûr.
Bah oui.
Je peux pas expliquer l'émotion qu'on a quand on rencontre un public qui vous regarde, qui a la banane, là, il reste deux heures, il a encore la banane, mais il est en sueur.
Non, l'émotion est inexplicable, il faut la vivre.
C'est inexplicable.
Quoi. Ouais, ouais.
C'est inexplicable.
Vous avez envie de réagir, Franck Tapie.
Oui, parce que même si j'ai pas eu la chance de connaître les mêmes foules que Marc, mais. Pour tous les concerts que j'ai fait en 30 ans, je fais pas mal de concerts dans des belles salles. Hein. Et qu'on soit déjà, ça commence en répète. Déjà, le bonheur qu'on a quand on a la chance de faire de la musique, déjà, c'est quelque chose qui est peu explicable, sauf quand on le fait. Mais quand on procure de l'émotion chez des gens, qu'ils soient 10 dans la salle ou 10 000, c'est, comme vient de le dire Marc, c'est pas racontable, parce que ça vous transcende. Ça vous transcende complètement.
Le seul petit exemple que j'ai trouvé, c'est un peu comme un jeu de séduction avec deux personnes.
Ouais.
Qui sont en train de se séduire. On ne sait pas ce qu'on peut dire exactement, comment elle va réagir, l'autre, et si et ça. À un moment donné, il y a des regards. Les regards disent beaucoup. Et puis après, ça prend une autre tournure.
On passe l'étape
c'est
d'après.
Exactement. Moi, les 10 premières minutes, à chaque fois sur scène, ça dure 10, 15 minutes, 20 minutes. Et après, c'est parti.
C'est pareil dans une interview, vous savez. C'est vrai, en plus.
Pour revenir sur ce qu'a dit Marc tout à l'heure sur son style musical, et pourquoi il a eu raison de le faire, comme tous ceux qui durent. J'ai inventé un outil il y a 26 ans, maintenant tout le monde en parle, c'est l'ADN des marques. Serum, c'est une marque.
Vous en avez inventé des trucs, Franck Tapie.
L'ADN, c'est quoi? C'est pas l'acide désoxyribonucléique, comme je l'ai écrit dans mon bouquin. Parce que j'en ai fait un bouquin qui s'appelle Pourquoi la vache qui rit ne pleure jamais.
D'accord.
Pour expliquer que.
Allez-y, spoiler tout ce que j'allais raconter sur vous.
Ah, pardon, excusez-moi. Et en fait, c'est l'authentique différence naturelle. Et en fait, ce qu'a fait Marc Serum, comme toutes les grandes stars, elles restent sur leur authentique différence naturelle. Dès qu'elles sortent du cadre. En fait, finalement, elles se trahissent elles-mêmes, elles trahissent leur public. En fait, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ont été jusque-là? Et toutes les grandes marques, de Coca-Cola à Apple, à d'autres, des grandes marques qui ont trahi à un moment leur ADN, se sont plantées.
Et quand ils changent de style,
mais toujours.
Quoi, c'est ça, en fait.
Pourquoi? Parce que tant que le public vous attend sur votre style, vous n'avez aucun intérêt à changer. C'est à un moment quand le public vous délaisse ou attend de vous que vous soyez ailleurs, peut-être qu'il faut essayer quelque chose. Mais tant que le public ne le réclame pas, il n'y a rien sur le public, en fait, sur la reconnaissance du public. C'est ça l'ADN.
Marc Serum, quand on vous décrit comme un artiste emblématique de la scène disco, est-ce que ça vous va?
Oui, à partir du moment où on recadre le mot disco.
Voilà, c'est de la musique. Alors, c'est pas pour rien que je vous pose la question.
Voilà, c'est de la musique de discothèque.
Ouais. Ce qu'on pense à Diana Ross, hein, forcément, dans ces cas-là.
Les premières pubs, parce que je vais vous dire, c'est la vérité devant un publiciste. Ouais, dans les années 76, quand ça a commencé à sourire, évidemment en France, je suis resté en distribution, c'est-à-dire qu'on gérait la com, la publicité, la promo et tout. Et sur des pages de pub que je faisais acheter par mes collaborateurs, le mot disco était long. Et j'ai enlevé. C'était la mode, on coupait tout.
D'accord.
New York, c'est là où est arrivé le N et le grec.
Okay.
Et j'ai fait bêtement que j'ai suivi un mouvement. Donc on a mis disco. C'est quoi la musique disco? C'est la musique de discothèque. C'est quoi la musique de discothèque? C'est la musique qu'on écoute quand on a envie de faire bouger son corps, qu'on est plutôt, on est préparé à être bien dans sa peau.
Ça peut être de la house, ça peut être de l'électro, ça peut être du rock, ça peut
tout ce qui se joue pour danser,
pour la musique,
tout ce qui se joue pour danser
en boîte.
Absolument. La pop, seule les alpaguer, comme on dit-on, accaparer. Et aujourd'hui, il y a très très peu de titres de pop ou de hip-hop qui ne sont pas, par rapport à leur producteur, orientés, ça groove, quoi, ça fait bouger. Quoi.
Oui, surtout les nouveaux titres qu'on entend là, c'est des choses qui sont faites que pour ça d'ailleurs.
C'est incontournable, la rythmique, si j'ai pu apporter quelque chose à la musique, c'est la rythmique. Moi j'ai mis la rythmique très très en avant, en tant que batteur, ça me paraissait logique.
Bien sûr.
Ça, si j'ai amené quelque chose, c'est ce qui est un peu...
Et c'est sur la batterie que tout a commencé pour vous, hein, Marc Serum.
Tout à fait.
Ouais. C'est la batterie qui vous a donné envie de la mélodie.
Et qui aurait pu imaginer qu'un batteur français de banlieue parisienne est né à Vitry-sur-Seine.
J'adore l'idée.
Donc je peux vous promettre
que une star internationale.
Je ne l'avais pas en tête, ouais. Mais j'ai tenté d'être à la hauteur à chaque opportunité.
D'accord.
Et j'ai eu la chance, j'en ai eu beaucoup.
Vous avez bien fait. Arrêtez de dire que vous avez eu de la chance, parce que vous l'avez provoqué
votre
chance.
Non, mais c'est bien de le reconnaître.
D'accord. Franck Tapiro, mis à part la pub, on l'a dit, vous aimez la politique. Hein. Et puis alors, vous avez notamment présenté votre candidature aussi aux élections législatives,
oui,
en 2022. J'ai vu ça à Courbevoie. À 6e circonscription des Hauts-de-Seine, en fait. Hein.
Absolument. Engagement donc, citoyen.
Voilà. Pourquoi vous et pourquoi vous avez eu envie de faire ça tout d'un
coup ? En fait, comme j'avais décidé d'arrêter de m'occuper de politique en France, parce que sincèrement, la médiocrité, la médiocratie ambiante.
Je peux vous citer là-dessus ?
Allez-y.
La politique politicienne crée de plus en plus de défiance et d'abstention. Pourtant, c'est un paradoxe quand on n'a jamais eu besoin autant de politique. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de marasme, de petits arrangements entre ennemis, autant de mensonges et de trahisons.
C'est le résumé
mais
de ce que je pense.
Mais pourquoi vouloir vous engager là-dedans alors ?
Parce que justement, je voulais m'engager en dehors des partis, mais avec un vrai engagement citoyen, même si je savais que c'était voué à l'échec, puisqu'on sortait d'une présidentielle. Mmh. Si vous n'avez pas l'étiquette présidentielle, vous
ne
pouvez pas réussir. Mmh. J'y suis allé. En étant d'ailleurs très proche du président, puisque je le soutiens depuis le démarrage.
D'accord.
Mais j'ai voulu y aller pour montrer qu'il y avait peut-être une autre voie possible. Alors, il y a encore du chemin, puisque les politiciens, eux, se désintéressent totalement de la citoyenneté et de l'engagement citoyen, ce qui devrait être pour...
Vous allez recommencer ou pas ?
Pourtant, non. Non, j'ai trouvé une autre idée.
Ouais.
Mais pourquoi ? Pour une simple bonne raison, que le monde de la politique, vraiment, faut s'en tenir éloigné. Mmh. Je le dis aux artistes depuis des années, tous ceux qui ne m'ont pas écouté le regrettent. Mmh. Mais même aux consultants que je suis, même si on aime la politique, il faut faire de la politique, mais en dehors des partis. Mmh. Et en dehors, surtout, de la politique politicienne. Donc moi, j'ai trouvé quelque chose. Je viendrai vous en parler dans quelques petites semaines. Je lance une start-up pour... booster l'engagement citoyen de tout le monde.
Bravo.
Et en France et à l'international.
C'est important ça.
Et vous allez voir
aujourd'hui.
Je crois que c'est comme ça qu'il faut faire la politique.
Il y a un autre truc que vous faites en politique. Alors c'est vous-même qui dites ça. Vous travaillez donc sur une campagne présidentielle au Sénégal avec la prochaine Obama au féminin. Est-ce qu'on peut en avoir plus des infos là-dessus aussi ?
Oui, je peux vous donner son nom. Elle s'appelle Anta Babacar.
D'accord.
C'est une jeune femme qui a 39 ans, qui est une grande businesswoman au Sénégal. C'est assez drôle comme c'est de dire c'est la reine du poulet. Elle a une boîte qui s'appelle la Cédima.
D'accord.
C'est vraiment une boîte magnifique
boîte, quoi,
pour produire du poulet,
ouais.
Et en Sénégal et ailleurs. Et surtout, elle a dans ses gènes, on parlait de gènes, d'ADN, la volonté de sauver son pays depuis des années. Et là, vu que le pays est vraiment dans sa situation depuis 2-3 ans, elle veut y aller. Et pourtant, je lui ai dit, on a tout à perdre en politique. Mais elle me dit, je m'en fous, je suis prêt à tout sacrifier parce que l'avenir de mon pays compte plus que tout.
C'est
donc
bon,
elle parle non seulement aux Sénégalais et aux autres. Et je peux vous dire, pour l'avoir rencontrée, j'ai eu de la chance. Moi, si on en parlait tout à l'heure avec Marc, moi j'ai travaillé pour Mitterrand, j'ai travaillé pour Sarko et pour Macron.
Ouais, ça va, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Ouais.
Coup de chance. À l'international avec d'autres aussi. Mais en Afrique, le jour où j'ai rencontré cette femme.
Il y a eu le président du Congo aussi. Hein.
Bien sûr, Denis Sassou Nguesso, qui a montré qu'il n'était pas un dictateur, mais
comme certains l'ont dit.
Mais bien sûr, c'est facile.
30 ans de pouvoir. Quoi.
Je vous le dis, dès qu'on est en poste. Oui, mais vous savez, Général de Gaulle, on aurait dit quoi s'il avait été resté.
Bah, il a démissionné, de Gaulle. Hein.
Bah oui, mais s'il était resté un peu plus longtemps, qu'est-ce qu'on aurait dit de lui ?
Ouais.
On n'a jamais dit de lui que c'est un dictateur.
Non.
En Afrique.
Bah, justement, il a démissionné.
Non, mais c'est pas pour ça, c'est pour autre chose, il pouvait plus rester. En Afrique, on met malheureusement, et ça, c'est vraiment tout l'esprit postcolonial français, et je le dis, je le répète, et je prouverai. On aime bien mettre la pression sur des chefs d'État africains qui, eux, sont aimés par leur public, avec de vraies élections et non truquées, puisque vous pouvez vérifier d'ailleurs dernières élections au Congo, sinon j'y serais jamais allé, étaient vérifiées par le monde entier qui a été là-bas avec des émissaires. Mais surtout, on a été les premiers au Congo à lancer la première consultation des jeunes sur les réseaux sociaux, ce que personne ne veut faire, parce qu'ils ont peur de se faire insulter. Regardez les retours, regardez le résultat positif, et vous verrez qu'à un moment, entre ce qu'on raconte dans certains médias qui essaient de jeter un peu le discrédit sur certains chefs d'État africains, et là, il y a une grande différence. Et en Sénégal, en revanche, moi j'y vais. Pourquoi ? Parce qu'elle a, c'est curieux, mais il n'y a pas de hasard, elle prône elle aussi l'engagement citoyen et la relève citoyenne. Et Anta Babacar, c'est la relève citoyenne pour le Sénégal.
Pour éviter
pour
l'alternative. Les intéressements aussi, quoi.
Mais exactement.
Des
aujourd'hui, on sait que dans énormément de pays, malheureusement, il y a la corruption, il y a la population qui est mise de côté, il y a un pillage total de toutes les richesses de tous ces pays magnifiques. Et n'oublions pas qu'en Afrique, c'est l'avenir du monde. Pourquoi ? 75% des Africains ont moins de 25 ans. Comment voulez-vous insulter l'avenir comme ça ? Donc je pense qu'il est de mon devoir, alors que je ne voulais plus faire politique, mais elle
comme
a réussi
ça,
à...
Comme ça, ça va.
Mais oui, mais parce que pour moi, c'est la vraie politique.
Bien sûr.
La politique citoyenne. Mmh. C'est un engagement. Et si on peut faire que cette femme soit non seulement la première présidente du Sénégal et la plus jeune présidente de l'histoire, à 39 ans, je serai au-delà de fier et je viendrai vous la présenter, j'espère, sur ce plateau quand elle viendra en tant que chef d'État du Sénégal.
Avec plaisir. Eh bien, merci à tous les deux. Vous restez encore un petit peu avec moi. Merci, chers auditeurs. On va y arriver d'écouter cet excellent sur Sud Radio avec le producteur de musique Marc Serron et le publicitaire créatif Franck Tapiro. On revient tout de suite en musique.
Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair.
C'est excellent et c'est bientôt la fin de votre émission autour de l'excellence française et de ses personnalités multiples. Ce soir, pour encore quelques minutes, 12 minutes précisément, je suis en compagnie du compositeur Marc Serron et du publicitaire Franck Tapiro, qui a aussi fondé Hémisphère Droit. Alors Franck Tapiro, pour la petite histoire sur vos débuts quand même, on vous taguait de le fils de pub de Nicolas Sarkozy. Le slogan tout droit inspiré de Jacques Segala qui se clamait lui-même partout fils de pub, on l'a beaucoup entendu ça. Et alors pour la petite histoire, c'est comme ça que vous avez commencé, vous avez fait le tour des grosses boîtes en laissant vos coordonnées accompagnées de adopter l'enfant pub.
C'est ça.
Et Segala lui-même vous a envoyé un télégramme qui dit j'adopte tendresse, j'acquiesce. Je trouve ça génial cette histoire.
C'est un truc de fou, on lui envoie ça. Et
bon, vous moi, avez forgé votre destin par
c'était un téléx à l'époque, il n'y avait pas de réseau social. J'ai reçu un télégramme, j'adopte tendresse, j'acquiesce, donc j'acquiesce Jacques Segala. Donc là, j'en frémissais. On a appelé, son assistante m'a donné un rendez-vous dans les 24 heures, on l'a vu. Ma vie a basculé. Mmh. Je savais, quand je l'ai rencontré, je me suis dit, voilà, c'est avec lui que je veux travailler demain. Il vous le dira peut-être, mais c'est avec qui m'a toujours dit, ah, mon fils est de pub, mon fils est de pub. Moi, c'est mon papy pub. Mmh. Et ça l'est encore aujourd'hui. On s'appelle pratiquement une fois par semaine. C'est la famille, quoi. C'est quelqu'un d'hors norme parce que. Et Jacques, pareil, qui a connu des hauts, des bas, il a été critiqué. Pourquoi ? Parce que lui aussi, il est différent. Mmh. Lui aussi, il a toujours dit ce qu'il pensait. Et alors, si je connais quelqu'un de visionnaire.
Comme la Rolex, quoi, c'est ça.
Mais le coup de la Rolex, bon, il faut reconnaître, il était un peu fatigué le matin. Vous savez, parfois, il lui arrive de ne pas être d'accord avec lui. Et ce matin-là,
c'était le cas,
il était un petit peu fatigué. Donc il a... Mais encore une fois, quand on le connaît, moi, je serais Rolex, je lui offrirais son point Rolex.
Il est effectivement sympathique.
Mais évidemment, sympathique. Et visionnaire. Ouais. Un jour, on relira ce qu'il a écrit dans les années 80 et 90 sur ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de ses détracteurs qui vont complètement changer.
Excusez-moi, mais la force tranquille, c'est un mot que j'utilise, enfin c'est un slogan dont je me sers moi-même pour parler de certaines personnes parce que ça les définit au mieux. C'est-à-dire que c'est quand même l'assemblage de deux mots aussi simples et réussir à en faire quelque chose d'aussi fort, c'est aussi
un oxymore.
Voilà.
C'est le roi des oxymores. Et c'est vrai que la force tranquille, c'était cela. C'est parti de L'homme tranquille, le fameux film avec John Wayne. Et la force tranquille est venue un peu après. Je me rappelle, c'était Richard Reynal et Anne Storr qui avaient bossé sur le slogan et Jacques qui a fait la composition, qui a été le vendre. Parce que, une fois qu'on trouve l'idée,
il faut la vendre.
Et après, il faut qu'elle résiste. C'est comme en musique, hein, quand on trouve une bonne musique, il faut qu'on la vende.
C'est comme en musique, quand vous disiez d'assembler deux mots et en créer une signification différente.
Ouais.
C'est exactement ce qu'un match-up.
Ouais, c'est ce que vous avez fait avec Marc Lavoine. Vous, Marc Serron, est-ce qu'il y a un moment particulier, donc vous étiez derrière votre batterie, on a compris, jeune, assez jeune en fait, dans votre garage, j'imagine.
J'ai démarré à 12 ans et à 18 ans avec une copine, je suis descendu à Saint-Tropez.
Et c'est ça le déclic ? C'est quoi le déclic tout d'un coup ?
C'était
qui vous fait,
blague,
genre, c'est ça que
j'avais
fait.
J'avais envie de passer avec ma copine l'été à Saint-Tropez, sac à dos. Et je me suis amené à faire des solos de batterie sur le port de Saint-Tropez, devant le Sénéquier. Et un jour, deux jours et trois jours, Eddie Barclay est passé. À l'époque, c'était une sommité. Il m'a invité à déjeuner le lendemain chez lui. Il m'a dit, mais il faut que je te monte un groupe, tu sais y faire, tu joues bien, bref. Et je lui dis, mais j'ai déjà un groupe qui s'appelait Congas, que je venais de former, que j'avais quitté pendant l'été parce que c'était repos de l'été, mais au mois de septembre, on se retrouvait. Je lui dis, faites-moi passer une audition avec mon groupe au Papagayo, qui était le club d'Européens. Et on est resté le mois entier. Fin août, j'ai signé mon premier contrat. Novembre, j'ai sorti mon premier single, il y a 50 ans.
Bon, écoutez, l'un et l'autre, vous avez ça en commun, c'est la chance que vous déclenchez. Franck avec Segala, vous avec Barclay.
C'est de l'opportunité, c'est de le reconnaître. Être sur le quai de la gare quand le train y passe, c'est pour
pas le rater. Et pas le rater. Pas rater le train.
Et alors, qu'est-ce que vous écoutiez à cette époque-là, quand vous aviez 18 ans ? C'était quoi la musique que vous écoutiez ?
Oh, j'étais dans Hendrix, j'étais dans Santana, Hendrix, Chicago. Blue Sweet and Tears, enfin tous les trucs un peu pas du tout de français, du tout.
Est-ce que ça vous a inspiré, ça ? penser indirectement?
Complètement.
Ouais.
Dans mes premiers.
Et pourquoi pas les Français alors?
Dans
c'était
mon,
trop balade,
premier
c'est
album,
ça?
Par exemple, en Minty Minor, on retrouve des cordes arrangées à la façon Barry White, on retrouve des cuivres à l'arranger au style un peu Chicago, avec des percs très santanesques. Bien sûr que ça m'a influencé. Il y a encore des choses qui m'influencent, heureusement.
Et comment vous créez une chanson? Vous commencez par le son, par la voix, par le texte, par... ça dépend des fois. C'est
une idée, une idée de ce que je veux entendre à la sortie. Donc c'est un guide.
D'accord.
Et après, quand j'ai ce guide, si je mets une batterie, par exemple. Et je vais faire un gimmick de base, donc je vais être obligé de suivre en harmonique. Puis après, je peux tout recommencer, mais il faut bien un début. On part à zéro, comme un pianiste, il se met à les mains, il pose ses mains, et qu'est-ce que je fais?
Il laisse faire, quoi.
Bon.
Franck Tapiro,
ouais,
vous réagissez là-dessus.
Les outils sont différents, mais on a toutes les mêmes formules.
Bien
on part
sûr.
De zéro, et à la sortie, quand on quand
c'est
ça sort...
C'est un peu magique, quand même. Hein.
Comment?
C'est magique, un peu.
Mais on sait
complètement.
Jamais. On sait jamais. Moi,
c'est difficile à expliquer, du coup.
Mais oui, mais je suis chanteur, pianiste. Alors, quand j'ai la chance d'avoir un piano, ben, je me fais mon piano-voix. Mais comme ça m'arrive 9 fois sur 10, ou dans le métro, ou dans la bagnole, moi, j'ai mon petit enregistreur où je fais... En fait, je chante toutes les pistes.
C'est, ça s'appelle un montrer.
Magnétophone. Ça m'arrive pour Ikea.
D'accord.
Ikea, j'avais trouvé le slogan Mute. Mute, qui en suédois veut dire s'éclater, kiffer, etc. Et sur mon scooter, et j'ai tout, hein. Je suis arrêté sur mon scooter, j'ai l'idée de la musique, et j'ai mon casque Bluetooth, et je chante alors. Chant. Piste 1, chant. Piste 2. Tata.
Vous faites ça sur votre téléphone.
Voilà, piste 3.
Don 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 don. Et en fait, excusez-moi,
après,
mais vous faites les sons
fait
de toutes les pubs que vous créez,
oui.
C'est ça?
D'accord. Ouais, j'ai fait pratiquement toutes les musiques de pub de mes pubs.
D'accord.
Et ça, donc
et
après je vais en studio avec 8, 9, 12 pistes et le coup de bol, ça c'est comme la tarte tatin. c'est une histoire vraie, l'ingénieur du son a pas compris. Au lieu de reproduire tout ça en instrument de musique, il a superposé ma voix. Et c'est devenu le fameux slogan Newt qui a cartonné pendant des années en France et qui a failli cartonner international aussi.
Bravo.
Donc c'est des coups de bol aussi. C'est qu'on part sur un truc et voilà, il a additionné tout ça.
Je disais qu'il fallait avoir la chance pour faire une réussite.
Coup de chance.
On me dise
Gaga
pour
que ça.
Vous avez fini par me convaincre l'un et l'autre que la chance à sa part.
Mais elle vient pas comme ça. Il faut aller la chercher.
Il faut aller la chercher.
Ou du moins, faut être, je me répète, sur le quai de la gare.
Faut pas louper le train quand il passe. On a compris. Alors, c'est quoi l'un et l'autre, vos rituels ou habitudes créatives, Marc Serron? Comment vous créez?
Moi, j'adore créer sur scène.
D'accord.
Avec le public, il ne s'en rend pas compte.
Ok.
J'essaye des choses, j'essaye des ponts, j'essaye des bouts de mélodie. J'ai toujours fait ça. Un peu...
Donc vous n'êtes pas, on imagine, le compositeur enfermé dans son studio, etc. Vous nourrissez de l'extérieur, quoi.
Plus, oui, hein. Mais il n'y a pas vraiment de formule, comme vous l'expliquiez. Il n'y a pas vraiment de formule. Supernature, par exemple, j'ai mis une après-midi, j'ai chanté
bien
la
sûr,
basse, j'ai chanté le refrain, le couplet.
Supernature, c'est une après-midi? Un après-midi.
Mais oui, mais ça ne veut pas dire que c'est facile à composer.
Ah non, mais un après-midi pour que ça fasse le tour du monde comme ça pendant
si
30
j'avais...
ans, 40 ans derrière, c'est
vous
incroyable.
Vous ne croyez pas que j'ai pu essayer des années ensuite d'en faire un deuxième.
Ouais.
Un Patrick Hernandez, par exemple, pourrait le confirmer.
Ouais.
Il n'a pas brouté les montagnes pour
le même, Love Scene, c'est tout l'album qui est resté dans les
annales. Je ne parle pas de moi, là, mais je parle de Patrick Hernandez,
oui, j'avais
par exemple.
Compris.
Ça s'appelle le talent d'avoir les trucs qui sortent comme ça.
Comme ça, on ne sait pas. Heureusement, c'est pour ça que j'ai dit
Patrick Hernandez, il a fait une seule chanson.
Peu importe.
Oui,
mais ChatGPT ne pourra pas la faire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. ChatGPT, il ne peut faire que ce qui a déjà été fait. Donc il peut refaire un truc qui ressemble à Born to Be Alive. Mais le prochain Born to Be Alive ou le prochain Supernature, il ne sait pas le faire.
Ouais.
Dieu merci.
Ouais.
En revanche, ce qu'il y a de bien, c'est de montrer que la vraie créativité, il n'y a pas d'équation à la créativité. Le jour où il y aura une équation à la créativité, nous, on n'existe plus. Et il n'y a pas d'équation. Dieu merci, on ne sait pas. Vous me demandez comment j'ai trouvé Newt? Je ne sais pas. Je vais vous donner la séquence, toutes les musiques que j'ai faites. Là, moi aussi, je prépare un duo avec Parc Lavoine, d'ailleurs, et une autre artiste qui s'appelle Hélène in Paris. Soit ils ont déjà enregistré, ça va être magnifique. Une jolie balade, un slow, parce que je rêverais de relancer le slow, comme ce qu'on a vécu dans les années 70-80. Et bien, pareil, on me dit, mais oh, elle est belle, la mélodie. Même Marc, il me dit, mais d'où elle sort? C'est un copain qui avait ses. Un autre compositeur qui l'a faite et moi j'ai écrit les paroles et il me dit mais comment vous avez fait? J'ai dit, ça s'est rencontré, comment? Je sais pas, c'est comme ça, donc c'est François Castello qui a fait la musique, moi j'ai écrit les paroles, d'où c'est venu? je peux pas vous dire. Mmh. Après, il y a une intention, il y a quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai mon truc, jamais je vais en studio pour trouver l'idée de musique. Mmh. Jamais je vais au bureau pour trouver une idée. Mmh. C'est en dehors du cadre. Parce qu'en dehors du cadre, vous êtes libre. Ouais. Aujourd'hui, on manque de liberté dans tout. Mmh. C'est pas seulement la créativité. Regardez en télé, regardez dans... Écoutez la radio, regardez les livres.
Radio, on parle
vous
là, vrai,
vous coupez la parole, je rajoute
allez-y,
la liberté. Il faut avoir de l'audace aussi.
De
bien
l'audace,
sûr,
de l'audace.
Ça, c'est un outil comme le tournevis pour l'électricien.
Il faut aller plus loin.
Est-ce que je peux vous poser la dernière question de l'émission parce qu'il nous reste 2 minutes ensemble. On va commencer par vous, tiens, Franck Tapiro. Que diriez-vous, que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez ?
Alors, l'adulte que je suis, il a à peu près 5 ans d'âge mental. Donc déjà, c'est mon problème, j'ai le syndrome de Peter Pan. Non, en fait, je veux dire sincèrement, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'état d'esprit.
Mais qu'est-ce que vous auriez envie de dire au petit garçon que vous étiez ? C'est ça la question, en fait.
Continue.
Ouais.
Continue à faire ce que tu fais, en connaissant toutes les embûches, et, je veux dire, tous les freins, tous les échecs aussi, pour essayer d'apprendre un petit peu, mais surtout... Garde ton âme d'enfant. Mmh. On ne peut pas être créatif ou artiste si on n'a pas profondément une âme d'enfant.
Bien sûr. Marc Serron, qu'est-ce que vous lui diriez à ce petit garçon que vous étiez où ?
Oh, moi je dirais continue comme ça, t'as pris beaucoup de plaisir, t'as bien eu raison, t'en as donné aussi beaucoup, mais on ne change rien quoi. Il n'y avait pas de plan.
Ah, mais c'est qu'il faut. Il ne faut peut-être pas avoir de plan alors.
Non.
Hein ? J'en sais rien. Voilà, en tout cas moi j'en avais pas et...
Alors moi j'ai tendance à pas raconter ma vie aux auditeurs non plus, mais quand même j'avais pas de plan non plus. Donc comme quoi on peut faire les choses avec passion,
du
sans
moment qu'on
avoir
tente de les
plan.
Faire bien et d'être à la hauteur des événements qui passent devant vous.
Exactement.
Et un plan non connu, il y a peut-être un plan dans l'univers. Hein.
Allez chers auditeurs, on va vous laisser. Je vous rappelle quand même, merci hein, à tous d'avoir écouté cette émission. On va mettre un peu de son derrière, on va se remettre un peu de Serone histoire de se faire plaisir en se quittant. Serone, vous êtes le 3 novembre prochain. Au Palais
Nice,
Nicaïa, à Nice, avec le chef d'orchestre Randy Kerber pour un concert symphonique. Bah, ils ont bien de la chance, les Niçois, j'ai envie de dire. Hein.
Nous aussi, on a
voilà,
de la chance.
Vous avez plein de dates à venir aussi. Hein. Enfin, on voit tout sur votre site, en fait.
Hein. 2 ans, on va faire une vingtaine, trentaine.
Voilà, donc je ne vais pas toutes les dire à l'antenne.
On ne les a pas encore toutes. Voilà. Voilà.
Donc il faut rester bien keep posted, hein, j'ai envie de dire, aux auditeurs. voilà. Vous, Franck Tapiro, vous avez plein de choses en cours aussi.
Ouais.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs ?
Deux séries, pièces de théâtre, plein de choses aujourd'hui. Parce que depuis que j'ai quitté la pub, j'essaie de remettre un peu de créativité au quotidien.
Ouais.
Donc j'écris un livre aussi.
Donc il faut qu'on reste c'est un peu bien branché.
Combien de vies vous avez
c'est... Justement, c'est
70
pour mon entourage.
C'est 10
mon...
avec une tête.
Mais mon entourage, je vous le dirai, vous raconterez d'autres choses.
Non,
moi,
oui.
Je suis resté dans la musique.
Mais oui, en fait, en gros, j'ai choisi la pub pour éviter de choisir un métier. Parce que dans la pub, il y avait tous les métiers.
Ouais.
Donc maintenant que je ne fais plus de pub, je reprends tous les métiers.
Vous avez bien raison. Voilà. Eh bien, c'était excellent, chers auditeurs. Vous l'aurez compris avec Marc Serron, le producteur et arrangeur. Et vous partez avant que je finisse. C'est le compositeur et Franck Tapiro, publicitaire, musicien aussi. Restez, vous pouvez tout réécouter, évidemment, sur YouTube, sudradio.fr et tout le tout team, les copains. On se retrouve la semaine prochaine. C'était excellent.
Merci à vous.
Merci.
Excellent.